France Inter. Karine Bécard, Éric Delvaux. Le 6-9 du week-end.
Bonjour François Forget.
Bonjour.
Vous êtes planétologue, spécialiste de l'exploration du système solaire, directeur de recherche au CNRS, membre de l'Académie des sciences, et on va un peu se tordre le cou ce matin pour aller regarder nos planètes et questionner les priorités, les futures priorités de la recherche spatiale. Car pour les Américains de la NASA, par exemple, la priorité pour la prochaine décennie et sûrement les autres décennies, eh bien ce n'est plus Mars, mais c'est Uranus. Qu'est-ce que les Américains veulent trouver, vont chercher sur Uranus?
Bon, on va continuer à explorer les autres planètes, dont Mars. Mais alors, Uranus, effectivement, c'est un retour, entre guillemets, parce que vous connaissez tous la liste des planètes du système solaire qu'on apprend à l'école.
Et Uranus, c'est la septième.
Alors, c'est là, oui. C'est la septième. Donc, vous avez toutes les planètes rocheuses à côté de chez nous. Donc, Vénus, un peu plus près du Soleil. Mercure, encore avant. Mars, qui est très connu, qui est un petit peu plus loin. Ensuite, un grand espace avec quelques astéroïdes. Et puis après, les planètes géantes. Jupiter, donc à 5 fois la distance Star-Soleil, hein, voilà l'échelle, 2 fois plus loin Saturne, et puis encore 2 fois plus loin Uranus et Neptune. Alors Uranus et Neptune, elles sont pas tout à fait comme Jupiter et Saturne, donc des
c'est
grosses
gazeux,
planètes.
C'est gazeux.
Ouais, tout ça c'est gazeux, mais Uranus un peu plus petit, comme Neptune, il y a une atmosphère d'hydrogène, d'hélium, c'est assez exotique, hein, faut reconnaître, c'est à peu près 4 fois la taille de la Terre, hein. Et ce sont des mondes qui sont pas bien connus en fait, puisqu'on les a survolés avec nos missions spatiales une seule fois, dans les années 80, c'était la fameuse légende sonde de la NASA qui s'appelle Voyager 2. Et donc, on a quelques images, quelques mesures, mais elles restent méconnues. Et donc, bien sûr, c'est fascinant. On a eu maintenant des belles missions qui ont étudié, par exemple, Jupiter et Saturne, dont je parlais. Mais Uranus et Neptune, ça reste quand même un peu inconnu. Alors, et en plus de cela, on s'est rendu compte, ça c'est un autre aspect, alors qu'on explore aussi actuellement, on étudie à distance les planètes autour des autres étoiles, c'est une autre évolution en cours, et ben on s'est rendu compte qu'autour des autres étoiles, il y a plein de Uranus et Neptune. Donc tout d'un coup, elles sont devenues très très intéressantes, parce que c'est un exemple local de quelque chose qui semble très commun autour de nous.
Mais alors, je me demandais, qu'est-ce que les Américains vont chercher? Quel intérêt on a à aller chercher quelque chose sur Uranus? Enfin, j'imagine bien la découverte simplement scientifique, mais au-delà de ça, on cherche quelque chose de précis?
C'est vraiment l'exploration pure, là, pour le coup. Encore une fois, on l'a peu étudié. C'est des planètes qui sont très différentes de ce qu'on connaît déjà. Faut imaginer, donc, c'est nuageux, vous avez une atmosphère
d'hydrogène. On peut pas se poser dessus, par exemple.
Ah, non. Vous avez une très épaisse atmosphère, et puis, j'ai envie de vous dire, ce qu'il y a en dessous, on sait pas trop, quoi. On appelle ça des géantes glacées, puisque sous cette très épaisse atmosphère, on pense qu'il y a de la glace, mais c'est quelque chose d'exotique.
On parle de moins 220 degrés.
Alors ça,
sur
c'est
cette planète, oui ou non?
Ouais, c'est très loin. Donc, par exemple, Uranus.
Ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est exotique.
Alors,
pas très exotique.
Non, si ce qui est exotique, c'est une pluie de diamants.
Par exemple, ça, c'est des spéculations. Mais disons que on appelle ça des géantes glacées. C'est encore une fois un type de planète qu'on connaît mal. Épaisse atmosphère. En dessous, vous avez probablement de la glace, probablement des roches aussi. On ne sait pas trop. On en apprendra justement en envoyant des sondes. Quand on dit une géante glacée, on imagine quelque chose de froid. Alors, d'accord, à l'extérieur. Disons, les nuages sont très froids, on est loin du soleil, donc il n'y a pas beaucoup d'énergie solaire pour chauffer. Mais à l'intérieur, on parle de glace à haute pression qui est peut-être à 1000 degrés. Hein, donc, et voilà, il faut qu'on explore ça. Et j'ajouterais que, en plus, il faut toujours se retenir pour ces planètes géantes, et je pense qu'on en reparlera, et notamment pour Uranus et Neptune, en plus de la planète elle-même, c'est un système planétaire. Donc vous avez des lunes qui sont en orbite, qui sont très intéressantes, les plus proches qui s'appellent Ariel ou Uranus, elles sont vraiment très Miranda, elles sont vraiment intéressantes. Donc c'est tout un système planétaire. Donc de la même manière, pour ceux qui connaissent, qu'on a exploré avec passion le système de Jupiter, et on va continuer, et le système de Saturne, il y a aussi le système d'Uranus à explorer. Alors,
juste pour préciser, ouais, le calendrier, parce que c'est quand même très 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 loin, vous l'avez rappelé en début, ça veut dire que quand on enverra quelque chose sur Uranus, le retour, ce sera dans quel calendrier?
Ouais, vous avez raison de
souligner
ça.
On met 13 ans, si j'ai bien compris.
Exactement.
Pour aller jusque là-bas.
Donc déjà, là, c'est
déjà
juste une décision qui est prise de créer cette mission qui va avoir lieu. La décision est quasiment prise, c'est un conseil qui est donné à la NASA, mais moi, l'expérience prouve que c'est des missions très ambitieuses, elles vont être développées, mais ça va mettre du temps. Donc on parle là d'une construction dans les années à venir, un lancement en au début des années 2030, une arrivée 13 ans plus tard. Donc, il y a des gens parmi mes collègues, et moi y compris, on sait déjà ce qu'on va faire en 2045-2050. Donc, c'est du long
vous
terme.
Vous avez du boulot jusqu'en 2045.
Je vous rassure, entre-temps, on a plein de projets en cours et en construction et qui sont en route, qui vont nous occuper.
Alors, cet objectif Uranus, ça ne sort pas de nulle part. Hein. C'est le choix des plus éminents scientifiques de l'Académie américaine des sciences et de l'ingénierie. Ils viennent de publier leur rapport, un rapport rendu tous les 10 ans, très attendu sur les objectifs des prochaines décennies. Pourquoi ce rapport est-il si important pour le planétologue français que vous êtes ?
Alors, c'est effectivement ce rapport de prospective, le Decadal Survey, donc tous les 10 ans. Effectivement, il donne, ça rassemble pas que des académiciens, ça rassemble vraiment une communauté, il y a beaucoup de réflexions, c'est quand même une procédure vraiment assez structurée. On fait un peu la même chose, nous, en Europe, hein, je vous rassure. Et bien, effectivement, une agence spatiale comme la NASA, qui domine un petit peu par ses moyens, par toutes ses missions, ce que l'on peut faire en exploration, elle a un certain nombre de types de missions. Il y a des grosses missions, qu'on appelle les missions navire amiral. Cette mission vers Uranus, c'est le cas, flagship, on dit en anglais. Puis il y a des missions un peu plus petites, puis des missions encore plus modestes. Donc il n'y a pas qu'une seule mission, il y a toute une flottille qui est préparée. Et c'est un peu structuré par une réflexion très scientifique. Il faut souligner ça, hein. C'est pas du prestige, des esbroufs, c'est vraiment la science pure et dure, une réflexion sur ce sujet-là. Qu'est-ce qui nous reste à explorer? Qu'est-ce qu'on doit apprendre? Quelles sont les priorités? Et donc il y a énormément de travail, d'investissement, y compris par quelques chercheurs européens, et qui vont un peu comme ça définir les priorités après une réflexion. Quand ce rapport est diffusé, c'était il y a quelques jours, donc je vous remercie de mettre ça dans l'actualité, c'est pas évident. Mmh. Eh bien, tout d'un coup, ça nous donne une vision de ce qui va se passer pour nous pour cette aventure quand même humaine extraordinaire qu'est l'exploration actuelle du système solaire.
Mais pourquoi pour vous? Parce que finalement, ce rapport, il est fait par des Américains. On pourrait penser que ça ne concerne essentiellement que la NASA. Il s'impose à qui, en fait, ce rapport?
Alors, il s'impose, c'est un grand mot. Vous avez raison. Il se trouve que, pour deux raisons. La première, c'est que ces missions américaines, d'abord, elles impliquent beaucoup de chercheurs européens. On est très souvent, la plupart d'entre nous, on travaille à la fois sur des missions européennes, mais aussi des missions américaines. Et j'ajouterais que beaucoup de missions, de ces missions, seront des missions internationales. C'est le cas, on pourra en reparler, hein, des missions vers Mars. On a une forte implication de l'Europe. Il y a des missions quasiment, ça a été initié dans le côté NASA, mais on a eu la même procédure côté ESA, donc European Space Agency, ou l'agence spatiale française, le CNES. Mmh. Et on s'est dit, bah ouais, nous, on va faire pareil. On a les mêmes conclusions, travaillons ensemble. Et moi, je suis assez convaincu, par exemple, que cette mission vers Uranus, il y aura une forte contribution européenne. Il est envisagé, par exemple, qu'il y ait une sonde de descente dans l'atmosphère. C'est-à-dire que non seulement vous avez un satellite qui va se mettre en orbite pour explorer le système et la planète Uranus, mais on va lancer une petite sonde de descente qui va descendre dans l'atmosphère et faire des mesures, on appelle ça in situ, vraiment en capturant le gaz et en regardant ce qui se passe.
Eh bien, mais les Russes et les Chinois, là, ça les intéresse pas?
Les Européens.
Si, ou ils observent quand même ça aussi?
Ah, c'est une bonne question. Alors, on a historiquement beaucoup de collaboration avec les Russes, notamment en Europe, on a fait plein de choses. Et donc là, en ce moment, évidemment, il y avait un petit choc et un besoin de changer nos stratégies. Peut-être pas à long terme, on verra. Et côté chinois, c'est vrai que côté européen, nous, français, et côté européen, on a des vraies collaborations avec les Chinois. Côté américain, là, pour le coup, c'est moins. Il y a une vraie limitation. Il y a des règles qui empêchent presque les collaborations américano-chinoises.
Pour refermer le chapitre Uranus, qui est donc le prochain grand objectif, la prochaine grande mission internationale et surtout américaine, ça veut dire que Mars, on en a fait le tour ou il y a encore des choses à apprendre à Mars? Enfin, on a des choses à apprendre, j'imagine, mais il y aura de l'énergie pour encore aller chercher sur Mars?
Uranus, c'est la prochaine qui a été rajoutée à une longue liste de projets qui sont encore en développement. Donc, c'est la prochaine quand ce qu'on démarrera dans 10 ans. Entre-temps, on en construit d'autres qui vont bientôt partir. Et Mars, bien sûr, non, reste la priorité. D'ailleurs, pour répondre à votre question, ce rapport décennal commence par dire que la priorité qui avait été soulignée il y a 10 ans par le prochain rapport décennal, d'ailleurs à laquelle j'avais eu la chance de contribuer, eh bien, ce rapport avait conclu que Mars était la priorité, avec en particulier cette mission extraordinaire que l'on a amorcée, qui est une mission de retour d'échantillons de la planète Mars. C'est ça qui est en cours, notamment, vous avez peut-être entendu parler de ce rover qui s'appelle Perseverance, Eh bien, Perseverance, c'est la première étape d'une mission qui vise à récupérer des échantillons à la surface de Mars, et puis de les ramener sur la Terre. Ça va être fait, c'est dans le cadre d'une collaboration Europe américain, Amérique, Europe, NASA. Et donc la première étape, c'était ce rover. On sélectionne des
échantillons. Il y a aussi un hélicoptère, Ingenuity, ouais, tout à fait. Qui est allé, paraît-il, au-delà des espérances des scientifiques. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a fait de magnifique, cet hélicoptère, sur Mars?
Alors, tout à fait. Donc, ce rover, je remets le contexte, a pour objectif de choisir des échantillons. Et on avait mis un petit démonstrateur technologique. Donc, nos collègues de la NASA, du Jet Propulsion Laboratory, c'est un laboratoire de la NASA en Californie. Ils avaient conçu un petit hélicoptère test qui devait faire 5 vols pendant un mois au début de la mission. Et en fait, il marche super bien. Et il continue, il accompagne le rover, il se met un peu en éclaireur, il vole, il prend des photos. Donc le rover, c'est, oh, on peut aller par là. On est déjà à 25 vols, ça va faire un an, plus d'un an. Et donc c'est un super succès, ouais, c'est une très très belle histoire.
Alors au sujet de Mars, on a aussi le milliardaire américain Elon Musk qui prétend qu'il pourra bientôt transporter des centaines de robots bipèdes pour coloniser Mars. C'est crédible ou pas ce qu'il dit?
Alors, ça, c'est Elon Musk, il faut reconnaître qu'il dit des choses tout à fait extraordinaires, et c'est parfois crédible.
Donc c'est crédible, là,
ce qui est jamais crédible,
c'est
le calendrier. Alors, il dit ça, qu'il va faire ça dans 6 mois, j'imagine. Non, j'ai pas suivi. Non, ce qui est vrai, c'est que Elon Musk, là, on change de sujet. Il amène une espèce de petite révolution technologique avec un concept qui consiste à utiliser des grosses fusées dont on peut recharger le carburant. Par exemple, il lance une grosse fusée en orbite terrestre, une autre, on recharge les moteurs, on rallume et on va vers Mars. Et avec cette techno-là, alors que nous, on envoie au maximum quelques tonnes vers Mars avec les technologies traditionnelles, il peut envoyer des charges utiles, on dit, donc un vaisseau spatial beaucoup plus massif, beaucoup plus gros, vers la planète Mars. Et effectivement, dans ce contexte-là, on peut rêver d'envoyer n'importe quoi, y compris plein de
Mais
robots, etc.
Mais c'est souhaitable ou pas? Vous en pensez quoi, vous, le scientifique?
Alors, si on peut tout d'un coup accéder à une planète comme Mars beaucoup plus facilement, pour moins cher qu'auparavant, en envoyant des engins plus gros, c'est formidable. Mais il faut reconnaître une chose, c'est que la fusée, c'est pas ce qu'il y a de plus cher dans une mission spatiale. Donc le développement des robots en question, ils vont coûter bien plus cher que sa fusée. Donc ce qu'il lui annonce, il dit, moi j'ai une fusée, elle est en développement, hein, c'est pas encore tout à fait prêt. Je serais capable d'envoyer des robots des lanceurs, énormes, etc. Ouais. Mais ces robots-là, ils vont coûter une telle fortune qu'on va pas pouvoir les faire comme ça.
Et juste, c'est quoi le plus cher? Parce que vous dites c'est pas le plus cher la fusée, alors que je pensais vraiment que c'était ça le plus cher, de la fusée dans une exploration spatiale. C'est quoi le plus cher?
Le plus cher, c'est souvent les robots, les engins eux-mêmes. Par exemple, si on prend un engin comme Perseverance dont on parlait, donc c'est imaginez une espèce d'automobile à 6 roues qui fait la taille d'une voiture. Hein. Mmh. Eh bien, c'est un chef-d'œuvre absolu. Il faut le voir en développement. C'est un prototype, des millions d'heures de travail. Donc à la fin, c'est honnêtement des milliards de dollars uniquement pour payer la conception. Le développement, c'est vraiment tellement de travail que c'est une très, très, des très grosses sommes d'argent en salaire, tout simplement.
Ça veut dire que quand les privés comme Elon Musk mettent des milliards sur la table après avoir vendu PayPal, ces milliards privés compenseront jamais la recherche fondamentale publique?
C'est même pire que ça. Elon Musk, effectivement, est devenu très riche après avoir vendu PayPal, mais c'est pas du tout ça qui finance sa compagnie SpaceX. SpaceX, c'est tout simplement un des fournisseurs de la NASA et accessoirement de l'armée américaine, etc. Et donc l'essentiel de l'argent qui sert au développement de cette compagnie SpaceX, eh bien, c'est tout simplement des contrats industriels. De la même manière, si vous voulez, que je sais pas, Dassault qui développe des Rafales, bah c'est de l'argent public français. Bah là, c'est de l'argent public américain, tout simplement. Donc c'est pas un milliardaire privé comme dans les films de James Bond qui développe sa fusée privée. Non, c'est tout simplement un des contractants, de même que Boeing, que Lockheed Martin, qui développe des engins pour la NASA et avec grand talent. Mais alors, c'est de l'argent public.
On parle beaucoup des Américains depuis un quart d'heure. On a évoqué un peu l'Europe. Est-ce que la recherche spatiale européenne est aussi ambitieuse que celle des Américains?
Alors oui, j'ai envie de dire que oui, à notre échelle, le budget de l'Agence spatiale romaine est un peu plus bas, on est moins impliqué dans l'exploration humaine.
Hein. Combien, vous savez, le budget?
Le budget de la NASA, de l'ESA?
Bah les deux.
Alors de la
en
NASA,
Europe, c'est combien?
L'ordre de grandeur, c'est combien?
De la NASA, on peut souligner un point, parce que la dernière demande de budget de la Maison-Blanche a été annoncée il y a quelques jours, et le budget de la NASA n'a jamais été aussi élevé. Ça parlera à personne, si peut-être à vous, 28 milliards de dollars par an actuellement. Côté ESA, j'ai un léger doute, mais on est à plusieurs milliards. milliards. La contribution française, pour vous donner un exemple, ça vous parlera plus, c'est à peu près 1,4 milliard. Ça, c'est pour la partie contribution française à l'Agence spatiale européenne. En plus, nous, on a une agence spatiale française qui a à peu près un budget un peu plus élevé que ça. Mais donc, c'est ces ordres de grandeur-là.
Oui, n'empêche que le Centre national d'études spatiales de Toulouse, lui, il pointe depuis de longues années un manque de moyens. On ne va pas parler de politique ce week-end, on n'a pas le droit. Hein. On va surtout pas faire de bilan, mais ça dure depuis de longues années. Pas assez d'argent, disent les scientifiques spatiaux à Toulouse. Vous êtes d'accord avec ça, en France ?
Moi, je suis d'accord avec ça. Et, comment vous dire ? On n'a pas le droit de parler politique.
Non,
vous n'accusez personne,
pas aujourd'hui.
Mais dites-nous le problème.
Non, l'idée, c'est que il faut être. Et on a donc, je vais d'abord répondre très très rapidement à votre question précédente. Est-ce qu'en Europe on a des missions et des projets ? La réponse c'est oui, en particulier pour ce qui est de l'exploration robotique du système solaire, l'astrophysique, l'observation de la Terre.
Deuxième question, est-ce qu'on a les moyens de nos ambitions ?
Voilà. Alors on a des moyens, on va pas se plaindre. Bien sûr, ils pourraient être plus élevés pour faire. Ça coûte pas grand-chose à chaque citoyen américain. Évidemment, je suis pas objectif, mais c'est quand même qu'est-ce qu'on peut faire de mieux nous, être humains, qu'explorer le système solaire. Néanmoins, ce qui se passe aussi, c'est que il faut faire attention justement au contexte politique, aux choix budgétaires. Pourquoi ? Parce que nos missions spatiales, vous avez vu, je vous ai parlé de missions qui développées sur de long terme, qu'on lance, etc., sont des gros paquebots. Et si, par exemple, vous avez un certain budget, puis vous dites, oh, on va baisser de 10%, comme vous avez des projets en développement qui doivent absolument continuer, bien tout d'un coup, vous stoppez tous les projets à venir pendant des années. Et ça fait des crises majeures qui semblent étonnantes, parce qu'on se dit, oh, 10%, c'est pas grand-chose. Non, 10%, ça veut dire, on ne peut plus rien faire pendant 5 ans.
Stopper,
et ça, c'est un choc.
Stopper des budgets, dites-vous, à propos de la Russie, mise au ban de la communauté internationale pour cause de guerre, est-ce que ça bloque des projets internationaux de coopération spatiale ?
Ouais, tout à fait. On pourrait déjà mentionner, donc c'est un petit peu autre chose, mais la station spatiale internationale, qui
alors
est vraiment.
Alors elle continue à fonctionner malgré tout.
Eh bien, exactement. C'est un peu l'exception. Je commence par l'exception. Là, on n'a pas le choix. Vous avez des humains à bord. Tout le monde s'entend bien. Ça continue comme avant, quoi qu'en dise le responsable de l'agence spatiale russe, qui est un peu.
Mais c'est aussi parce que les enjeux, je ne sais pas, financiers, par exemple, sont très importants et qu'il faut continuer.
Les enjeux financiers, les enjeux humains, tout simplement. On ne peut pas jouer avec des vies humaines. Et puis, après, on va voir ce que ça va devenir. Alors, pour répondre à votre question, oui, d'abord, il y avait un certain nombre de projets qui devaient simplement être lancés sur des fusées russes, tout simplement. Et parmi ces projets, il y avait des projets pour lesquels il y avait des vraies collaborations internationales. Et je soulignerai bien sûr, parce que c'est un projet sur lequel je travaillais, et puis je pense que vous l'évoquez, c'est un projet de rover, donc d'engin à roulettes, qu'on devait lancer vers Mars en septembre prochain, qui s'appelle ExoMars. Donc le rover européen s'appelle Rosalind Franklin. Et c'était une vraie collaboration avec nos collègues russes. Et on devait utiliser leur fusée, mais aussi un système de descente construit en collaboration, mais qu'on peut plus faire sans les Russes, qui devaient donc descendre à la surface depuis l'espace, se poser à la surface. Bah là, on est coincé.
Et donc, vous faites quoi en attendant ?
Alors, on a le lancement de septembre est impossible, et en plus, derrière, on peut pas lancer vers Mars tout le temps. Il y a des fenêtres de lancement, c'est à peu près tous les 26 mois, à peu près tous les 2 ans. Donc 2022, c'est raté. Donc, est-ce qu'on peut lancer en 2024 ? Est-ce qu'on peut lancer en 2026 ? Alors, pour cela, à moins qu'il y ait une révolution en Russie, mais on va pas parler politique. pour cela, il va falloir qu'on fasse sans les Russes.
Donc, et comment on fait pour faire sans les Russes ?
Donc, deux options possibles. Soit on essaye de faire cela en Europe. Franchement, on a la technologie, on n'est pas. Mais par contre, il y a des quelques morceaux là-dedans. Certains, c'est très spécifique, un moteur de descente, et puis plus compliqué encore, des systèmes de chauffage et de sources électriques, surtout de chauffage, qui sont à base de plutonium, qui chauffent radioisotopique, on appelle ça. Et ça, c'est les Russes qui fournissaient, on le fait pas facilement en Europe. Donc, soit on le fait nous, mais il faut développer une filière, ça va prendre du temps et beaucoup d'argent. Soit, pour le coup, on se tourne de manière un peu solidaire vers nos collègues américains qui ont peut-être des choses à nous prêter ou voire à contribuer. C'est des discussions qui sont en cours et peut-être qu'on on va après avoir travaillé avec les Russes, on va revenir vers les Américains. Je dis revenir parce qu'on avait commencé ce projet-là avec les Américains, c'était toute une histoire. En tout cas, voilà les options possibles. Donc si on fait ça 100% en Europe, ça reporte de pas mal d'années. Si peut-être on travaille avec les Américains, ça pourrait coûter un peu moins cher et surtout un lancement plus rapide. C'est une mission qui a été commencée il y a longtemps. J'ai des collègues qui ont fait ça toute leur vie. Je crois qu'ils sont impatients qu'on lance cette fameuse mission.
On termine avec l'actualité des planètes. C'était ce matin, entre 5h30 et 6h30, c'était l'apogée d'un d'un alignement exceptionnel de quatre planètes, Vénus, Mars, Saturne, Jupiter, visible à l'œil nu. Pour vous, planétologue, l'intérêt de cet alignement, est-ce que ça va au-delà de la beauté et de la rareté de cet alignement exceptionnel? Ou est-ce qu'il y a d'autres intérêts plus scientifiques?
C'est avant tout très beau et ça donne, si on le regarde et qu'on on regarde comment ça évolue, etc., c'est quand même avant tout cette notion de voir cette géométrie du système solaire. Vous voyez, toutes ces orbites, elles se frôlent apparemment depuis la Terre. C'est une illusion, bien sûr. Mais c'est quand même très beau. Et puis, pour peu que le ciel soit ouvert, qu'on puisse sortir un petit télescope, c'est quand même formidable. J'invite tout le monde, si vous avez jamais vu une planète dans un petit télescope, les anneaux de Saturne, les satellites de Jupiter.
Regardez ça.
C'est visible. C'est une chose de le voir sur Internet, mais le voir en vrai avec votre œil, c'est quand même bluffant.
Et moi, c'est visible en ce moment que depuis l'hémisphère nord, hein, évidemment. Je dis une bêtise ou pas? Vous me regardez avec des gros yeux.
Non, ça dépend. Non,
d'accord, moi j'ai rien dit alors. Merci beaucoup François Forget, planétologue et spécialiste de l'exploration du système solaire. Merci d'être venu éclairer nos lanternes ce matin.